Les mixtapes de l'apéro, on se retrouve vendredi. Ciao, bye bye, bisous. Nigga, what? Fuck around and get that ass broke like shot. My peeps up top be hindering. Got it locked like a keyhole. Curving niggas like tea. Itchy, itchy. I'm just getting well, well sticky. In danger zone. Murder line. Why you been living in a murder zone? Help me, John. Oh, I'm living in a danger zone. Why you living in a murder zone? Mama ball and papa ball. To see them youth dying in the streets. Too much gunshot, you can't walk too free. Light bulb pan, everything dark. Gunshot a back, east, west and north. Don't you see, everyone will go fast. It's a danger zone.
Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h passé de 3 minutes et tout de suite c'est l'heure de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. On est ensemble pendant près d'une heure pour parler de toute l'actualité locale et internationale. Comme je le disais, on est ensemble pendant une heure et surtout on est en grand nombre ce soir puisque nous sommes 5 autour de la table. À la régie, il y a Max, vous avez entendu juste avant. Salut Max.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous les auditeurs, j'espère que tu es en pleine forme ce soir.
Pleine forme, alors le pollen, me fait un peu du mal, mais voilà, ça va le faire. Cédric est en face de moi, salut Cédric.
Salut tout le monde.
Ça va, pareil la forme?
Ouais, un peu fatigué, mais... On est là, présent.
On est là. Et nous avons ce soir donc le retour de Faustin. Salut Faustin.
Salut.
Alors encore une fois, désolé pour la fameuse chronique de la semaine dernière. Tu reviens avec une nouvelle chronique.
Tout à fait.
On parlera quand même d'Euroleague quand même pour donner le résultat de Monaco. Et voilà, donc ça parlera des NBA Awards, c'est ça?
Exactement.
Et puis également quelqu'un qui est déjà venu dans l'émission, c'est Simon Revaux qui était là pour la dalle angevine. Et du coup voilà, tu es là aujourd'hui Simon, salut Simon.
Ça va et vous?
Ça va nickel. On va commencer donc par présenter un peu le sommaire. D'abord on va faire les actus locales, on va un petit peu débattre de ce qui se passe notamment au niveau du SCO ou d'autres choses. Et on aura surtout en fil rouge le match de l'UFAB qui joue actuellement contre Villeneuve-d'Ascq à Jambouin. C'est un match hyper important puisque c'est le deuxième match des playoffs et les Angevines ont perdu le premier match, donc match évidemment primordial. Le match est déjà commencé, 4-2 pour Angers, donc voilà, ça commence tout doucement. On va donc commencer avec Max, si tu es d'accord, Max.
Oui, on va commencer avec l'habituelle page du SCO. Le SCO qui s'est rassuré pour le maintien, c'était dimanche dernier à domicile avec la réception de Bordeaux. Bordeaux qui, lui, et bah, eux, au contraire, ne se sont pas du tout rassurés et ont fait un pas de plus vers la Ligue 2. Victoire des Angevins, 4-1. Alors, je crois qu'officiellement, le SCO n'est pas encore maintenu. Mais ça sent très très bon. Et les prochains matchs, donc ce sera pro déplacement à Metz samedi prochain et réception de Montpellier pour le dernier match de la saison. Et au niveau du classement, le SCO a 14-8 points et on est quand même à 7 points, il me semble, de Saint-Etienne 18e. Donc je pense que ça devrait le faire.
Justement, on va parler un peu du SCO. Messieurs, cette victoire contre Bordeaux, ça obtient le maintien selon vous
Normalement, selon les experts, je dirais que oui, mais bon, je dirais que tout est encore possible. Hein, derrière, ça va pas se laisser faire. Derrière, c'est toujours Clermont qui est.
Non, il y a Saint-Etienne en place de barragiste.
Oh, Saint-Etienne 18, Metz 19 et Bordeaux 20.
Et un nombre de points, de toute façon, Saint-Etienne a un match en retard.
Qui va être joué demain.
Contre Nice.
C'est ça.
Contre Nice. À mon avis, qui peuvent l'enrouler dessus.
On va voir. Mais dans l'ensemble, cette saison, au niveau du SCO, est-ce qu'on peut dire qu'elle est satisfaisante ou il y a quand même quelques regrets à avoir?
Copier-coller.
Simon, toi, dans le SCO.
Moi, je pense que c'est des regrets parce que le SCO a très bien débuté la saison. On a été sur le podium pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et il y a eu cette série de défaites, je crois 7 défaites de suite ou un truc comme ça. Et ça a coupé vraiment l'élan de cette saison parce que c'était extrêmement bien parti. Donc ouais, pour moi, il y a des regrets, oui.
C'est vrai qu'il y a eu un gros coup de mou en pleine saison qui a faussé un peu les espoirs du SCO. Et voilà, on va espérer qu'on se fera plaisir, en tout cas que le SCO se fera plaisir sur la fin de saison.
Ça devrait le faire.
Ça peut être intéressant. Quelque chose à rajouter, Cyril, non?
Non, pour moi, c'est copier-coller, hélas, des saisons qu'on a vues.
Hein, par contre, c'est vrai, oui. On commence bien,
puis derrière, bah voilà. On se voit peut-être gros assez tôt, je sais pas, mais.
On va enchaîner avec le basket. C'est le grand soir pour les Angevines de l'UFAB qui disputent peut-être leur dernier match de la saison. En tout cas, on ne le souhaite pas, évidemment. Le match vient de commencer à Jambouin pour ce match 2 du premier tour des playoffs. Actuellement, 7 partout entre les deux équipes. Les Angevines ont perdu, en tout cas, la première manche à Villeneuve-d'Ascq, 96-79, après avoir notamment craqué dans le dernier carton. Pour ce deuxième match, les joueuses de David Gauthier donc doivent venir à bout des nordistes pour rester en vie et disputer un match 3 ce week-end. On vous tiendra évidemment au courant, comme on l'a dit, de l'évolution du score pendant l'émission. Du côté de l'EAB, la saison est finie depuis bien longtemps maintenant, mais la saison prochaine en Pro B se prépare tranquillement et avec surtout un changement de coach dû évidemment à la démission de Sylvain Delorme qui laisse l'équipe angevine en quête d'entraîneur entraîneur. Et justement, la nouvelle est tombée ce samedi. C'est Ali Bouziane, l'ancien coach des Espoirs de Chalon, qui est un club de Pro B, qui va reprendre les rênes de l'équipe, avec évidemment pour objectif de se maintenir en Pro B la saison prochaine. À Choulet Basket, la fin de saison prend un tournant assez inattendu avec cette provisoire 8e place qui est pour l'instant synonyme de play-off. Et en ce moment même, les Choletais défient l'Asvel, le leader du championnat. Donc à voir si les Choletais peuvent se permettre un dernier baroud d'honneur assez intéressant en Betclic Elite.
Est-ce que tu as les compos un peu du match de l'UFAB?
Les compos,
par rapport au potentiel blessé qu'on aurait pu avoir eu avant le match aller, si tu as eu des évolutions, des choses comme ça.
Je crois pas. Il y a eu, c'est vrai, on peut le rappeler, il y a Jasmine Bailey qui a été donc blessée et qui devrait en tout cas manquer toute la fin de saison. Mais effectivement, on peut aussi rajouter, alors ça du coup pas forcément lié aux joueuses blessées, mais en tout cas il y a une très bonne performance de Alexis Peterson qui a terminé dans le 5 majeur de LFB, donc c'est quand même une performance assez notable. Donc elle, l'américaine, est bien là, contrairement à effectivement Jasmine Bailey qui n'est pas sur le terrain. Et voilà, donc on a un 5 majeur composé de Peterson, Richardson, Corneli, Slonjac et Chidom. Et voilà, sur le banc on retrouve Gaillard, Heyman, hein, les jeunes joueuses, Drian Trécan, Merceron, également jeune joueuse, et puis Arondo, la pilière de l'équipe. Donc voilà pour Angers, actuellement 12-9 pour Villeneuve d'Ascq.
Une part sur un scénario un peu ressemblable au match aller. Match serré en tout cas.
Ouais, c'est ça.
On avait l'habitude de faire un point sur les Ducs d'Angers, mais leur saison est bel et bien terminée. Il y a une autre info qui va concerner des joueurs des Ducs, puisque messieurs, les championnats du monde élite de hockey sur glace auront lieu du 13 au 29 mai. Donc voilà, là ça va commencer dans 3 jours, ce sera en Finlande. Et pour l'occasion, eh ben, il y a deux Ducs qui ont été sélectionnés, Nicolas Ritz et un certain Vincent Lorca, qu'on connaît bien, messieurs, puisqu'on a eu la chance de l'avoir pour une émission. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection, en particulier pour Vincent Lorca, comme j'ai dit, qu'on a pu discuter avec lui?
Bah, de mémoire, je crois qu'il n'était pas sélectionné sur un précédent rassemblement. Et je pense que peut-être la fin de saison.
La fin de saison, clairement, je pense.
A vraiment permis à lui d'avoir cette sélection. Et je crois que Loïc Farnier, finalement, était présélectionné aussi.
Oui, il y avait trois joueurs. Ouais,
c'est ça, de base. Et donc.
Et je crois que Vincent Lorca n'avait jamais connu les A. Il avait connu les groupes jeunes. Il avait été présélectionné avec les A, mais il me semble qu'il n'avait jamais joué avec les A. De mémoire,
en tout cas, ouais, il faudra peut-être retrouver l'interview et avoir ce passage. Mais en tout cas, c'est beau de voir qu'on porte bonheur à certains sportifs.
C'est beau.
C'est beau.
Et Cédric, il y avait une autre actu, pas forcément hockey sur glace, mais plutôt sport sur glace, qui s'est passé à Angers cette semaine.
Qui concerne quand même le haut lieu du sport de glace en juin, quoi. Puisqu'il y a eu une convention entre la Fédération de patinage artistique et la ville d'Angers qui a été signée, c'était ce...
Vendredi
dernier, oui. Pour trois dates, donc deux dates qui compteront pour le Grand Prix de France, donc qui auront lieu en novembre 2022 et 2023, et ainsi les championnats du monde de patinage artistique, enfin synchronisé junior.
Donc
c'est quand même voilà, deux gros événements en tout cas pour le patinage artistique. On voit que finalement cet outil qui est l'Icepark sert de plus en plus, et je pense qu'il est apprécié aussi par la fédération. Il y a eu un beau succès aussi pour les championnats du monde féminin, qui ont ramené pas mal de monde. Donc je pense que c'est peut-être pas les derniers qu'on aura, et donc c'est plutôt bien pour le monde du hockey, le monde de la glace, quoi.
Ouais, c'est cool de voir que l'Ice Park ne sert pas évidemment qu'aux Ducs, et qu'il y a derrière une volonté de faire briller la scène angevine avec l'organisation d'événements internationaux, comme on l'a dit, le mondial de hockey féminin, et puis voilà, deux autres événements qui ne concernent pas que le hockey, du coup. Donc ça permet aussi de faire découvrir peut-être d'autres disciplines dont on n'a pas l'habitude d'entendre d'habitude.
Un petit peu curieux de voir comment ça va être organisé quand on voit un peu la, la, la forme de la patinoire avec ses glaces. On sait que, bah voilà, par exemple, au patinage artistique, il n'y a pas de, de protection autour.
Ouais.
Donc, bah, je pense que ça va être une nouvelle vision de la patinoire qu'on va avoir si jamais ils doivent démonter tout ça. Ou... Mmh. En tout cas, ouais, ça va être très intéressant.
On suivra ça évidemment avec intérêt. On termine avec deux autres infos qui concernent le sport angevin. Tout d'abord le handball, le SCO handball est officiellement relégué en National 1. En, voilà, c'était d'actualité depuis plusieurs semaines. Les Angevins se sont inclinés 30-19 contre Dijon et donc voilà, les joueurs de Issam Tej retrouvent le troisième échelon national deux ans après avoir rejoint la Pro League. Et puis une autre info qui concerne le handisport, si on peut dire ainsi, avec les Deaflympics. Voilà, ce sont des Olympiades pour les personnes malentendantes qui sont organisées donc depuis plusieurs jours maintenant au Brésil. Et deux Angevins, Théo Moreau et Marie Rivreau, ont décroché chacun une médaille d'or dans leur discipline respective. L'Angevin a remporté le contre-la-montre en cyclisme et l'Angevine a battu le record du monde de sa catégorie en franchissant une barre à 4 mètres en saut à la perche. Et pour l'anecdote, les deux sont en couple et ramènent donc chez eux deux médailles d'or, de quoi bien décorer
pas de dispute
la, la maison. Voilà, c'est ça. Chacun la sienne. Donc voilà, une très belle performance des deux Angevins. Voilà, rien d'autre à rajouter au niveau de... Ah si,
si quand même.
Et oui, je me stoppe parce qu'on a une info Quidditch. On les avait reçus la semaine dernière. Et donc voilà, il y avait la Coupe de France qui était organisée à la Baumette. Et les résultats sont tombés. Cédric, je crois que même que, en tant que bon reporter, tu es allé là-bas.
Ouais, j'y suis allé samedi voir un petit peu ce qu'il en était au niveau ambiance, si le public en juin avait bien répondu à l'appel. Il y avait du monde, donc c'est très bien de ce point de vue-là. Ça permet de faire aux gens de découvrir un peu plus le sport. Sur un point de vue sportif, je pense que c'est une très belle place pour le club. Ils finissent cinquième. Quand on sait que voilà, au niveau du classement, c'est les Titans de Paris qui ont remporté le tournoi. C'est leur sixième titre. Donc je pense qu'ils n'ont pas à rougir. Ils ont eu des matchs un peu compliqués. Il y a eu quelques petits bobos. Donc le dimanche, ça a peut-être été un peu plus compliqué du coup, mais enfin, je pense que le club doit être satisfait en tout cas de ce résultat et puis de la bonne organisation de cet événement.
Ouais. En tout cas, voilà, ça s'est bien passé en tout cas.
Ouais. Enfin, on voit qu'il y a vraiment une. Ce qu'il nous expliquait la semaine dernière, il y a vraiment une très bonne ambiance entre les différentes équipes.
Et bah, tant mieux. En tout cas, si ça s'est bien passé pour les Angevins, avant de passer à l'actualité internationale, on va marquer une pause musicale. Max, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Et bien, avant de passer aux actus mondiales, internationales, comme tu l'as dit, vous l'entendez déjà partir en fond. On va écouter Tout en Gucci de Nino et on se retrouve juste après.
Plus jamais d'anonymat, même si je dépose le tablier. Comme la boule noire au billard, on sera sur un thé. On te remplacera si tu te fais péter. J'ai une famille trop grande à nourrir. Mani, je peux pas mourir pour le nom de ma rue. PTG, Vesquil, Africa, il sort à la prochaine à porte, maillot. J'ai planté le pommier, ils m'ont même pas laissé une pomme. Mais comme je suis un taulier, je m'endormirai au Hilton. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je venais à midi si la veille, tout s'était bien passé. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je venais à midi si la veille, tout s'était bien passé. Bédo, j'ai très, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Bédo, j'ai très, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Numéro 10, je distribue comme Léo, mais si je suis dans le ghetto. J'irai tout en Gucci. Devant le miroir, je me trouve BG. Un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de nous? Qui je dois? On commence par qui? Devant le miroir, je me trouve BG. Un peu gêné quand la famille demande le prix. En face ils sont jaloux, jaloux de qui, jaloux de nous qui soit. On commence par qui? Faudra être têtu et borné pour réussir à monter. Ils sont bons qu'à dire bang bang dans les songes. Mais quand ça bang bang vraiment, y'a peu de soldats au front. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils sont bons qu'à dire bang bang dans les songes. Mais quand ça bang bang vraiment, y'a peu de soldats au front. Tout en costla, mi corazón est toujours aussi black. Je me suis acheté un toka, je suis pas everyday avec les bodyguards. Connu comme les Rolling Stones, connu comme les Dicad. Ce putain de monde est stone. J'ai baissé les tâches, je ferai tout en Gucci. Dans le miroir, je me trouve BG, un peu gêné. Un peu gêné quand la famille demande le prix.
Un peu gêné quand la famille demande le prix.
En face, ils sont jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de nous? Qui je dois? On commence pas.
De retour dans Génération Sport, votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur www.radio-g.fr. On est toujours en compagnie d'une équipe élargie qui accueille certaines recrues. En tout cas, voilà, on va enchaîner avec le football. Mais avant ça, évidemment, petit point sur l'UFAB avec donc ce match très important pour les Angevines qui sont actuellement menés à Jambouin 26-14 par Villeneuve-d'Ascq dans ce premier carton qui vient tout juste de se terminer. On va enchaîner donc avec le football. Max, tu vas d'abord dans un premier temps nous parler de la Ligue.
Oui, puisqu'on va revenir sur cette 36e journée de championnat. Monaco a battu Lille 2-1 et continue sa course vers une potentielle place en Ligue des Champions. Strasbourg a battu Brest 1-0. Lyon a perdu des points pour une place en Coupe d'Europe. Défaite des Lyonnais 3-2 face à Metz. Clermont a battu Montpellier 2-1 et s'est quasiment adjugé les points nécessaires pour le maintient comme le SCO. Lens a battu Reims 2-1. Marseille continue son parcours en tant que dauphin du Paris Saint-Germain. Victoire des Marseillais 3-0 face à Lorient. Et le Paris Saint-Germain justement, qui est déjà champion, on le rappelle, a fait match nul 2-2 face à 3. Il y a deux matchs en retard qui vont se jouer demain. Et pour cause, il y a eu samedi dernier, Alex et tout le monde, la finale de la Coupe de France qui opposait Nantes à Nice. Et ce sont les Canaries nantais qui ont remporté cette Coupe de France. Victoire 1-0, un but signé Ludovic Blas sur pénalty. Et donc demain, Nice rencontrera Saint-Etienne et Nantes recevra Nice. Et si on regarde le classement, je me suis trompé. Nantes
sinon,
recevra
Rennes. Sinon, ils sont très forts, Nice, d'aligner deux équipes dans le championnat.
J'étais déjà parti sur ce que j'allais dire plus tard. Nantes recevra Rennes. Et justement, quand on regarde, il va rester deux matchs, deux journées après celle-ci. Et ça risque d'être très intéressant jusqu'au bout, puisque Marseille, qui est second, a 3 points d'avance sur Monaco. Rennes a un match de retard, mais s'ils gagnent leur match de retard, peuvent revenir à égalité avec Monaco et même
ils passeraient devant au
goal average. Et même dans la zone rouge, Metz, Bordeaux et Saint-Etienne restent quand même assez proches, donc la fin de cette Ligue 1 risque d'être passionnante. Mais on en a marre de parler de la Ligue 1, est-ce qu'on ferait pas un focus sur les autres championnats? Et je me tourne vers toi, Simon.
Et bah exactement, donc avant de parler de la future finale de la Ligue des Champions, on commence cette actu européenne de football par la Liga espagnole. Samedi soir, donc le Betis Séville recevait le FC Barcelone dans un match extrêmement important pour les deux équipes. Le Barça se devait de remporter ce match en terre andalouse afin de s'assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est le prodige de 19 ans Ansu Fati qui a ouvert le score pour les Blaugrana à la 76e minute, une petite minute seulement après son entrée en jeu. Les Sévillans ont égalisé par l'intermédiaire de l'ancien catalan Marc Bartra. Il faudra finalement attendre la 94e minute pour se revoir un vainqueur avec une reprise de volée stratosphérique signée Jordi Alba. Le Barça, avec cette victoire, s'assure presque définitivement la deuxième place du championnat. Le Betis, quant à lui, descend à la cinquième place et s'éloigne du top 4. Autre match important en Espagne, c'est le derby de Madrid. L'Atlético recevait le Real dans son antre du Wanda de Metropolitano. Aucun enjeu pour le Real, déjà sacré champion, mais pour l'Atlético, une victoire les rapprocherait un peu plus du podium et d'une qualification en Ligue des Champions. Dans un match tendu, c'est finalement par le plus petit des scores que les Colchoneros vont s'imposer sur un pénalty du Belge Yannick Carrasco. En Italie, la course au titre fait rage entre les deux clubs de Milan. Pour l'Inter, il fallait absolument s'imposer à domicile face à Empoli vendredi soir. Les Interistes ont su faire preuve de caractère après avoir été menés 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Grâce notamment à un doublé de Lautaro Martinez et un but d'Alexis Sanchez, l'Inter renverse Empoli 4-2 et peut toujours rêver du titre. Du côté de l'AC Milan, il fallait une victoire obligatoire sur le terrain de l'Hellas Vérone dimanche soir afin de conserver la tête du championnat. C'est chose faite avec notamment un doublé de Sandro Tonali et un but d'Alessandro Florenzi. L'AC Milan conserve sa place de leader avec 80 points. Il restera 2 journées à l'AC Milan pour conserver son avance de 2 petits points face à son dauphin, l'Inter. Partons en Angleterre maintenant, où la bataille pour le titre fait rage également. Liverpool recevait samedi soir les Spurs de Tottenham à Anfield dans une chaude ambiance. Dans un match rempli d'intensité, Tottenham a su créer la surprise en ouvrant le score par l'intermédiaire du Sud-Coréen Son. Après de multiples tentatives, c'est finalement le Colombien Luis Diaz, éternel sauveur des Reds, qui égalise à 15 minutes de la fin. On en restera là donc. Liverpool perd 2 points précieux et s'éloigne du titre. Avec une telle opportunité, avec en tête la désillusion à Madrid, Manchester City n'avait d'autre choix que de battre Newcastle à domicile. Les Sky Blues n'ont pas fait de détails en remportant ce match 5-0 avec notamment un doublé de Sterling et un but de Phil Foden. Les Citizens prennent 3 points d'avance à 3 journées de la fin sur le deuxième Liverpool. On notera également l'humiliante défaite de Manchester United sur la pelouse de Brighton 4-0. Une défaite qui enfonce un peu plus les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui se retrouve désormais à la 6e place. Parlons Ligue des Champions maintenant. On connaît désormais la future finale qui se jouera au Stade de France. Le Real Madrid affrontera Liverpool le 28 mai prochain. Les Reds ont su se sortir du piège Villarreal. C'est très mal parti pour Liverpool, mené 1-0 dès la 3e minute de jeu par l'intermédiaire de Boulaïdia. Liverpool subit la pression et l'agressivité des Espagnols. Le plan du tacticien Unai Emery fonctionne à merveille. Villarreal ne cesse d'attaquer et ne subit que de très rares occasions adverses. À la 41e minute, Francis Coquelin en prend de la tête un centre parfait d'Etienne Capoue. Villarreal a refait son retard. Le score cumulé est alors de 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. On imagine alors une réaction de Liverpool en seconde période. Jurgen Klopp fait entrer Luis Diaz. L'entrée du Colombien change tout. À la suite d'un bon mouvement, Fabinho vient trouver l'ouverture entre les jambes du gardien dans un angle fermé. 5 minutes plus tard, Luis Diaz égalise de la tête. Liverpool montre un tout autre visage et va même aller jusqu'à chercher la victoire à la 74e minute avec un but à l'arraché signé Sadio Mané. Le lendemain soir, c'est le Real qui recevait Manchester City après un match aller de folie soldé par une victoire 4-3 des Citizens. On s'attendait évidemment à un grand match. La première période fut tendue avec la maîtrise de Manchester City. L'ambiance du début de match a perdu en folie et le Real est dominé. Au retour des vestiaires, City tente de forcer le verrou madrilène. Avec un Bernardo Silva en feu, les Sky Blues parviennent finalement à ouvrir le score avec une frappe lumineuse de Riyad Mahrez. On sent alors le Real incapable de réagir, mais comme face au PSG, comme face à Chelsea, il en faut peu pour le Real. À la 90e minute, Rodrigo relance le Real en reprenant un centre de Benzema. Le match devient alors fou. À peine une minute plus tard, le même Rodrigo donne l'avantage au Real en reprenant un centre de Carvajal. Rodrigo arrache la prolongation et la confiance et l'envie a définitivement changé de camp. C'est la 95e minute que vient la libération sur un pénalty provoqué par Ruben Dias. C'est Karim Benzema qui offre la qualification finalement au Real. Donc maintenant je me tourne vers vous messieurs, avec deux équipes de grande qualité et des joueurs extraordinaires, est-ce que vous voyez qui en vainqueur de la future finale de Ligue des Champions?
Déjà Faustin, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup t'entendre pour l'instant.
C'est vrai.
Moi j'aimerais bien voir le Real pour concrétiser cette saison et normalement pour Benzema qui là s'assurerait je pense un ballon d'or, surtout s'ils font une bonne perf ensuite pendant la Coupe du Monde. C'est ce que mon cœur me dit, le Real. Après, j'ai pas trop vu Liverpool jouer. J'ai surtout regardé les matchs du Real, donc je saurais pas trop dire.
C'est vrai que, en tout cas, avec le Real, on vit des émotions, qu'on soit d'ailleurs supporter du Real ou pas, parce qu'il y a quand même eu 3 remontadas incroyables sur les 15 dernières minutes de chaque match retour. Donc, c'était assez fou, une campagne vraiment folle. Effectivement, ce serait bon, en tout cas, d'avoir une aussi belle affiche et un aussi beau suspense sur le dernier match, la finale, au Stade de France en plus. Pareil, mon cœur me dit Real, je suis comme toi Faustin. Après, Liverpool est une très belle équipe, donc ça reste encore indécis pour moi. Max.
Mais j'ai pas envie de dire la même chose que vous, mais je vais devoir parce que je pense à peu près à la même chose. Personnellement, je préférais voir le Real gagner, même pour récompenser rien que la saison de Benzema. Voilà, ce serait amplement mérité. Par contre, je pense que sur 90 minutes, Liverpool a une meilleure équipe Enfin, je pense que Liverpool a une meilleure équipe, tout simplement. Par contre, le Real, comme on l'a vu cette saison en Ligue des Champions, bah, ils peuvent être mauvais pendant 75-80 minutes et bah, au final gagner la rencontre et se qualifier. Donc, ça va être, j'espère que ça va être une très grande finale. Généralement, quand le Real va aussi loin en compétition, on est rarement déçu sur ces dernières années. C'est un peu l'inverse pour Liverpool qui fait pas les meilleures finales de Ligue des Champions. Mais voilà, on espère que, enfin, on espère déjà avoir une bonne finale. Ce sera au Stade de France. On n'a pas dit la date, mais c'est 28 mai, je crois.
28 mai.
Bon, il y aura plus de place, hein, évidemment.
Ah, il faut pas chercher.
Il faut plus chercher. Mais ouais, j'espère déjà avoir une bonne finale. Et puis oui, allez, s'il faut donner un pronostic, je dirais quand même le Real.
Cédric.
Liverpool.
Ah, Liverpool. Parce que pour l'instant, avec que des madridistas,
des meringues.
C'est avec, ça. Avec Klopp.
Donc ouais, tu es séduit par le jeu de Klopp.
Ouais, non, mais bah, ils ont le titre déjà en 2020 sur la saison 2021-2022.
Qui ça?
Liverpool.
Le titre de.
Ils ont eu un titre cette année-là.
Ah oui, ils ont eu la coupe.
La coupe. Ouais.
La coupe de la Ligue.
Oui, ils peuvent gagner.
Voilà, ils sont en lice pour les trois tableaux. Quatre tableaux. Enfin, ils ont gagné un, donc trois autres tableaux. Finale de coupe d'ailleurs contre Chelsea.
On sait. Enfin, les finales contre le Real, généralement, c'est quand même des gros matchs. Ah, solides. Donc. Si c'est le Real qu'on voit là depuis 2-3 matchs en Champions, ça risque de faire un peu comme contre Man United là. Ils vont chuter. Et puis... Mais ouais, non, je les vois pas si favoris que ça, quoi.
Qui c'est, le Real ou les...
Le Real, ouais.
Ok, d'accord.
Ouais.
Ok.
Pour moi, le.
De toute façon, c'est vrai que ouais, Liverpool est dans une grande forme.
Ils sont, voilà, ouais. Puis, ils ont encore tout à jouer. Donc, là, est-ce qu'on va pas avoir un petit relâchement, justement, du Real?
Ouais, et puis.
Il avait fait tourner ou pas dans le derby?
Oui. Il avait pas Benzema, il avait mis Jovic.
Il avait pas Courtois.
Donc, déjà,
c'est dire.
C'est dur.
Jovic titulaire, il fait bien tourner.
Jovic, Lino Gaulle, oui.
Ah, mais bon, pour un derby.
Bon, ils sont foutus.
Ils étaient déjà en vacances.
Ouais,
alors,
faut le dire.
Mais peut-être que t'as raison, dans le sens où c'est peut-être mal préparé cette.
C'est un bon choix si t'arrives à bien reposer tes joueurs,
ouais.
Et que c'est payant derrière.
Après 4 jours avant, ils étaient, voilà.
Mais ouais.
Peut-être crevés. Ils ont joué 2 heures.
Après, voilà.
Titulaire.
Ils sont revenus loin là-dessus. Par contre, oui, ça fait deux demi-finales qui étaient impressionnants, surtout les deux matchs retour. Quoi.
Ouais.
En termes de spectacle, ouais.
Ouais, c'était impressionnant. Et à Liverpool, en plus, c'est vrai qu'il y a eu une grosse armada, enfin, en tout cas, avec Luis Diaz qui est arrivé, Jota aussi qui est un bon joker.
Puis il va avoir des fins de cycle.
Donc ça va être intéressant à voir.
Par contre, défensivement, les deux équipes, défensivement, c'est le gros point faible des deux équipes, c'est la défense. Parce que Liverpool.
Van Dijk, Konaté, c'est pas mal quand même.
Ah ouais, mais moi j'ai jamais. Enfin, pour moi, Van Dijk il défend juste en poussant ses attaquants, mais après voilà, c'est mon avis, tu vois. Mais je trouve que la défense de Liverpool est très friable. Celle du Real encore plus.
Tant mieux pour le spectacle en tout cas.
Celle du Real aussi est très très peu sereine.
On va du coup se tourner vers Simon et on va te retourner la question. Toi, tu vois qui?
Moi, pour moi, je vois Liverpool favori parce que le Real a fait des grands matchs, mais on a vu quand même contre le PSG, contre Chelsea, contre City dernièrement, là, ils ont été largement dominés sur l'ensemble de la rencontre. Sauf que moi, je vois pas le Real renverser Liverpool, surtout dans la forme actuelle. Ils se sont fait distancer en championnat, alors peut-être maintenant ils vont peut-être tout miser sur cette finale. Et je pense vraiment que ça va être le rouleau compresseur des Reds sur cette finale.
Très bien, mais en tout cas voilà, les pronostics sont pris. On a 3 Real et 2 Liverpool.
Ouais.
On verra ça le 28 mai. On
peut donner aussi un petit mot sur l'actualité Ligue des Champions pour les prochaines années.
Oui, c'est intéressant ça, on peut dire, tout s'est tombé aujourd'hui.
Avec le nouveau format là.
Alors, le nouveau format.
Apparemment, avec plus
d'équipes. 36.
D'équipes, voilà, ouais.
En gros, ce sera, de mémoire,
entre 8
4 groupes de 9.
8.
Entre 8 et 9, selon les poules, je crois. Moi,
non, parce que du coup, ça fait 32.
C'est sûr, je suis quasi sûr qu'il y a 8, y a 8 équipes.
Non, dans le truc, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a 9 équipes et chaque équipe joue 8 matchs.
Ah, T'as peut-être, voilà,
et donc pas de match aller-retour. C'est ça l'enjeu. Et donc les deux premiers de chaque poule sont sélectionnés directement pour les huitièmes. Après, de la 9e à la 24e place, c'est sélectionné donc pour les barrages, donc ils s'affrontent entre eux. Et puis voilà.
Et les vainqueurs de ces barrages affronteront à chaque fois les premiers de poule.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On peut rajouter que la France aura 3 tickets directs et peut-être un ticket avec des tours à élimination directe avant le tournoi, des tours préliminaires en fait, ce qu'on appelait ça. Voilà. Et les autres.
C'est génial.
Donc c'est vraiment. Et normalement super. Pas de club russe.
Pas de club russe.
Normalement, ni biélorusse. Ça peut peut-être évoluer d'ici là, mais en tout cas.
Et j'ai pour pas l'instant, vu. J'ai pas vu. Ah, par contre, oui, par contre, faut dire aussi que la réforme est faite pour 2024-2025.
Voilà, c'est ça.
Donc, peut-être que la guerre en Ukraine sera terminée d'ici là, en tout cas, on l'espère.
J'ai pas vu s'il y avait des réformes sur les phases à élimination directe, si. Il me semble que ça reste.
Non, ouais,
comme
ça reste
aujourd'hui.
Ça reste classique, même si, effectivement,
la question de.
Les rumeurs parlaient d'un
Final Four. Plus intelligent vu ce qui se passe aujourd'hui, puisque on pourrait croire que les footballeurs n'ont pas assez de matchs par an.
Bah c'est ça, donc ils en rajoutent.
Ils leur rajoutent des barrages.
Là, par exemple,
8 matchs en Ligue des Champions.
En juin, le rassemblement de l'équipe de France, il y aura 4 matchs. Donc après une saison évidemment interminable, les Bleus vont jouer 4 matchs histoire de ne pas partir en vacances vraiment, le plus tard possible.
Après, c'est les 4 matchs classiques qu'on a généralement au mois de.
De juin, 4 c'est beaucoup.
Bah après, il y a la Coupe du Monde qui va arriver aussi.
Qui sera plus tôt.
Oui,
généralement, mais ces matchs-là, tu vois, l'hiver. Donc...
Ah oui, d'ailleurs, ça... on va pas parler de ça, mais la Coupe du Monde, avec le championnat qui s'arrête 3 jours, enfin une semaine avant début de. Bref, ce n'est pas le sujet
c'est
du
bizarre,
jour.
C'est bizarre, ça rappelle un peu les JO, ça.
C'est ça. Bref, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, on va clore ce chapitre foot, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, non? Je pense qu'on a tout dit. On va passer sur le basket. Déjà, évidemment, toujours un petit point sur l'UFAB, qui perd actuellement 32-22 contre Villeneuve-d'Ascq. Et puis aussi Cholet Basket, qui perd 33-22 contre Lyon-Villeurbanne, donc l'ASVEL. Et je vais, avant de me tourner d'ailleurs vers Faustin, qui va nous présenter un peu sa chronique du jour, je vais faire un point tout d'abord sur ce qui se passe en NBA, avec ce qui se passe, c'est surtout statu quo dans 3 rencontres des demi-finales de conférence. 2-2 entre les Sixers de Philadelphie et le Heat de Miami. Même score entre les Celtics de Boston et les Bucks de Milwaukee. Et idem pour le match entre les Suns de Phoenix et les Mavericks de Dallas. Les Warriors de Golden State mènent 3-1 dans la série contre les Grizzlies de Memphis. Et donc, on en a parlé la semaine dernière, en Euroleague, Monaco est tombé avec les Honneurs en quart de finale de l'Euroleague contre l'Olympiakos. Déjà, en premier mot peut-être sur l'Euroleague, du coup.
Ouais,
qu'est-ce
tout à
qu'on
fait.
Peut dire
du coup, tout le monde connaît toutes les équipes qui seront qualifiées pour le Final Four, parce que le même jour, il y a aussi le Barça qui sont qualifiés face au Bayern Munich. Du coup, ils rencontreront donc le Real Madrid en demi-finale à
Classico,
Belgrade.
Quoi.
Tout à fait. Ce sera la semaine prochaine, sera le 19. Et l'autre demi-finale sera l'Olympiakos, qui sont donc les tenants du titre, face à Anadolu Efes, pardon. Donc Olympiakos, qui ont en effet, comme tu l'as dit, battu le Monaco au but d'un match où Monaco gagnait quand même jusqu'au début du quatrième quart-temps même. Et là, ils ont commencé un peu plus galérer, ça a commencé à jouer plus physique. Et voilà, ils n'ont pas réussi à tenir.
De 6 points, je crois, 94-88.
Ouais, je sais plus, je ne l'ai pas là. Mais,
en tout cas, il y a. C'est ça, il y a vraiment 2 grosses affiches, donc un classico espagnol entre le Real et le Barça, et surtout donc Istanbul qui joue l'Olympiakos, donc ça va être pareil, une grosse ambiance.
Ouais, tout à fait.
Ça va être
à Belgrade, donc
ah oui, du coup oui.
Ouais, vu que c'est le Final Four, donc Belgrade c'est en Roumanie, et du coup je sais pas comment.
Je crois
que
c'est en Serbie, si je dis pas de bêtises. Belgrade, t'as dit?
Ouais.
Bon, on va
rien. On peut vérifier, hein, vraiment on a Google à portée de main. Belgrade. De mémoire, c'est en Serbie. C'est la capitale.
C'est vrai que les deux capitales se confondent.
Ouais, bon.
C'est pas grave.
On fait tous des erreurs.
On fait tous des erreurs, effectivement.
Donc, voilà quoi. Et moi, je pense que perso, l'Olympiakos va réussir leur back-to-back. Voilà.
Très bien. Donc, tu vas nous parler maintenant des NBA Awards qui ont eu lieu récemment.
Tout à fait.
Et donc, bah, vas-y, la parole est à toi.
Bah, du coup, les NBA Awards, le dernier titre est tombé ce matin. Et ils ont, donc, les 6 titres ont récompensé les meilleurs joueurs et le meilleur entraîneur de cette saison. J'avais déjà parlé de celui du rookie de l'année qui avait été décerné à Scottie Barnes. Donc, je m'y attarderai pas, pardon. Je vais par contre vous parler d'abord du titre de MIP, donc de la meilleure progression de l'année, qui a été donné au jeune joueur qui est Ja Morant, pardon, qui joue aux Memphis Grizzlies. C'est une récompense assez controversée, étant donné qu'il a beaucoup, certes, progressé cette saison, mais il est à la fois dans la discussion pour le MIP ainsi que pour celui du MVP, donc du meilleur joueur. Donc, certaines personnes pensent qu'il n'avait pas sa place ici, qu'il fallait donner ce titre à des joueurs moins bons que lui, mais qui avaient plus progressé concrètement, comme par exemple Darius Garland, le joueur des Cleveland Cavaliers, ainsi que Dejounte Murray, joueur des Spurs. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Peut-être un joueur, par exemple, qui, je pense à Mbappé, qui était, quand il était à Monaco, lui donner une récompense de meilleure progression plutôt que de meilleur joueur, un truc comme ça qui s'est passé. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Mais pour moi, les deux sont pas incompatibles. Ça va même de pair. Tu peux être un très bon joueur dès ta première saison, et du coup, bah, t'es forcément dans le, on va dire, dans le top 5.
Ouais, ça s'est déjà vu.
Du meilleur jeune. Et te retrouver en vainqueur. Ouais.
Après, du coup, le MIP, donc la meilleure progression, c'est ça. Ça concerne pas forcément que les jeunes.
Non. Ça. C'est, bah, en général, c'est pour le coup, ouais, joueurs. Parce que ta carrière.
Forcément.
Voilà.
Après, mais étant donné qu'il y a déjà le meilleur rookie, peut-être qu'ils se disent qu'il faut le donner à.
Ouais, c'est vrai, mais par exemple,
après, il faut voir les critères aussi. Oui.
De quoi ?
Faut voir aussi les critères qui rentrent en compte.
Bah, je pense que c'est l'évolution du nombre de points, je pense que c'est très statistique. Là, dans ce cas-là, la performance collective ne rentre pas trop en compte. Mais par rapport justement aux deux joueurs que j'ai cités, qui ont aussi énormément progressé cette année, qui sont les trois joueurs, justement, Ja Morant, Darius Garland et Dejounte Murray, ils sont passés All-Star cette saison. Mm-hmm. Donc c'est une grande récompense pour un joueur NBA. Et de mon point de vue, c'était justement assez ambigu de savoir s'il fallait lui donner ou pas, parce que c'était vraiment, surtout au début de l'année, plus dans la course au MVP que au MIP.
Ok, t'aurais préféré qu'il y ait plus de redistribution des prix, peut-être.
Ouais, c'est ça, donner plus petit, entre guillemets, mais potentiellement plus mérité.
Ouais, après, peut-être que c'est je connais pas du coup, mais peut-être que c'est la façon dont tu as décerné le prix, peut-être avec des votants, je sais pas
qui. Ouais, c'est le journaliste qui vote.
C'est le journaliste, voilà. Je pense que ça dépend de chacun, mais effectivement. Ça aurait été peut-être mieux de répartir un peu les trophées.
Ouais.
Voilà. Vas-y, enchaîne.
Ouais, bah, du coup, je vais parler maintenant du titre de sixième homme. Donc, le joueur qui n'est pas sur le 5 majeur et qui est le premier à rentrer sur le terrain. Il a été donné cette année à Tyler Herro, le joueur de Miami Heat. Il a clairement dominé la saison à ce poste. Il n'y avait pas de débat. L'année dernière, il était titulaire. Mais l'arrivée de Kyle Lowry, l'ancien meneur des Toronto Raptors, l'a fait mettre sur le banc. Malgré cela, il avait de nombreuses minutes, environ égales à celles de Kyle Lowry, justement, qui était lui titulaire. Et c'est un titre très peu discutable, où les votes ont été très clairement en sa faveur. Je vais parler ensuite de celui du DPOY, donc du défenseur de l'année, qui a été donné à Marcus Smart, le joueur des Celtics. Il a devancé Rudy Gobert, ainsi que Michael Bridges. C'était là un titre assez compliqué à donner, étant donné que Marcus Smart est donc un joueur qui est meneur, alors que Rudy Gobert est un pivot, donc leur manière de défendre est totalement différente. C'est-à-dire que Marcus Smart, il fait beaucoup plus d'interceptions ou ce genre de choses, tandis que Rudy Gobert, lui, c'est des gros contres, ou des empêchements d'aller au cercle, tout simplement. Donc c'était assez compliqué, c'est un peu controversé là aussi, c'est quand même assez mérité de son ensemble de la saison. Ça fait plusieurs années que Marcus Smart fait des grosses saisons défensives, et là il est récompensé, à mon avis, à sa juste valeur. Donc voilà, maintenant je vais parler du titre de coach de l'année qui est le dernier titre qui a été desservi cette année. Il a été donné à Monty Williams, le coach des Phoenix Suns qui ont roulé sur la ligue toute la saison. Ils ont fini avec 64 victoires et 18 défaites, donc largement premier. Ils sont en ce moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans les playoffs. Ils ont passé le second tour assez difficilement, contrairement à ce qu'on pouvait penser. J'avais personnellement mis un sweep, donc un 4-0 pour eux, et ils n'ont gagné que 4-2. Et là, même chose, il y a 2-2 dans la série, ils se font un peu peur. Un arbitrage aussi qui est très peu clément pour eux. On avait vu le dernier match Chris Paul, donc leur meneur emblématique, qui s'est vu attribuer 3 fautes qui étaient extrêmement litigieuses, où il ne touche quasiment pas le joueur. Voilà, et c'est pas la première fois que ça arrive dans ces playoffs. Certains crient à la conspiration et à l'arnaque, comme ça avait pu se passer dans le passé. Et maintenant, j'ai parlé du titre le plus attendu, celui de MVP, qui récompense le meilleur joueur de l'année, qui a cette année, comme l'année dernière, a été donné à Nikola Jokic, le pivot des Denver Nuggets, qui ont fini 6e cette année. Il a devancé Joel Embiid ainsi que Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo qui l'avait gagné à deux reprises aussi 2 ans auparavant. C'est Nikola Jokic devient donc le 2e européen à réussir un back-to-back MVP, c'est-à-dire d'avoir 2 années de suite le titre de MVP. C'est à mon avis là aussi un titre controversé par rapport notamment à Joel Embiid qui réalise une excellente saison d'un point de vue statistique, où il est meilleur que Nikola Jokic dans quasiment tous les domaines sauf à la passe décisive, pardon, ainsi que collectif, où les Denver Nuggets sont donc comme j'ai dit finis 6e alors que Philadelphie a fini 4e. Après, donc voilà, on pourrait aussi parler d'un point de vue du comportement, où ces deux joueurs sont assez houleux, j'ai envie de dire. Ils aiment beaucoup le trash talk, ça leur arrive assez souvent de prendre des fautes techniques à cause de ça. Tandis que, contrairement à Giannis Antetokounmpo, qui lui est plutôt calme, et il aurait pu être récompensé grâce à cela.
Très bien, bah merci beaucoup Faustin pour ce point NBA Awards. Voilà, c'était assez intéressant. Et puis voilà, les playoffs de NBA qui se poursuivent donc sur la fin de saison. Effectivement, toujours chaque semaine, on suivra ça de près. Avant de lancer un débat tennis, un petit point au niveau de la Formule 1, puisqu'il y a eu un Grand Prix ce week-end. Max Verstappen s'est imposé donc lors du Grand Prix de Miami devant les deux Ferrari. Charles Leclerc et Carlos Sainz. Quant à Lewis Hamilton, il termine à la 6e place. Donc voilà pour le petit point F1 autour de la table. Quelque chose à dire peut-être?
Ouais, j'ai bien dormi.
C'était apparemment dur.
Non, ouais, c'est pas... Franchement, ce Grand Prix-là, je crois qu'apparemment ça a été signé pour 10 ans. Donc non, c'est pas... C'était pas si innovant que ça. Circuit à la limite dangereux. La FIA qui refuse de faire des aménagements dans le sens des pilotes et qui préfère faire des controverses sur des points du règlement qui existent depuis des années mais qui ont été tolérés aussi pendant des années. On repart, j'ai l'impression qu'on va repartir encore sur une saison où on va avoir des petites histoires avec la FIA, enfin, c'est un peu dommage, mais bon.
Voilà, en tout cas, sur ce dernier Grand Prix.
Le prochain sera plus sympa.
C'est où?
Ce sera Barcelone. Ah, on retrouve des circuits. Voilà, il y avait le soleil, oh, il y a mis un. On a attendu la pluie, mais il y avait surtout une super marinade. Donc. Non, ouais, c'est vivement là, le retour des classiques. Circuit, quoi.
Ça marche. Avant de faire une petite pause musicale, petit point également handball. Brest a été éliminé de la Ligue des Champions féminine après sa lourde défaite 35-23 en match retour, après le nul 21-21 au match aller. À noter qu'il reste encore Metz en lice dans la compétition, les Messines qui affronteront d'ailleurs en demi-finale les tenantes du titre norvégienne de Kristiansand.
Il y a pas aussi Montpellier qui joue
J'allais venir chez les hommes. Le PSG a été sacré champion de France pour la 8e fois consécutive après sa victoire 37-33 contre Montpellier. Et les deux clubs français vont d'ailleurs donc retrouver le chemin de la Ligue des Champions ce week-end avec les quarts de finale qui débutent mercredi. Les Parisiens affrontent les Allemands de Kiel, tandis que les Montpelliérains sont opposés aux Polonais de Kielce. On passe à la pause musicale. Max, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Eh ben, avant de parler tennis, comme tu as dit, et on va aborder une très grosse performance qui va préparer un très jeune joueur pour le tournoi de Roland-Garros qui va débuter dans quelques jours. On va s'écouter Blue Light de Georgia Smith et on se retrouve juste après.
Pause musicale, voilà le temps pour nous de respirer un peu. Et on est déjà de retour pour la fin de Génération Sport. On va parler un petit peu tennis. Avant de parler tennis, on va faire un petit point sur le basket avec nos deux clubs du Maine-et-Loire qui disputent des matchs importants pour leur fin de saison. L'UFAB joue tout simplement sa place en play-off face à Villeneuve-d'Ascq, actuellement 37-27, c'est la mi-temps, donc 37-27 pour Villeneuve-d'Ascq. Il faudra que les Angevines se réveillent, mais effectivement, on en parlait juste avant, il y a pas mal de blessés côté Angers. Et puis du côté de l'ASVEL qui affronte Cholet, les Lyonnais mènent 45-27. Voilà pour le petit point basket local. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. On balancera les résultats de ces deux rencontres, puisqu'on va être un peu short au niveau de l'émission. On va enchaîner sur le temps qui nous reste pour parler un petit peu de tennis avec l'éclosion la semaine dernière d'une future star du tennis mondial avec ce jeune de 18 ans, l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui s'est imposé dans le tournoi de Madrid. C'est un Masters 1000 et voilà, il a battu notamment des petits noms du tennis mondial en la présence de Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev. Donc quelques broutilles finalement.
Voilà, tout trop d'affilée.
Rien. Trop fort rien.
Le tout d'affilée, c'est vrai, bien sûr. En quart, demi et finale du tournoi, donc une performance XXL pour cet Espagnol. Quel âge il a? 21 ans de mémoire, 21-23 ans.
18.
18 ans, ouais, il est aussi jeune que ça.
Ouais, 18. C'est
assez ben moi, 18 ans, je faisais pas la même chose.
Non,
bref.
Non, on galérait à avoir notre bac.
C'est un autre débat.
Bref, en tout cas, voilà, puisque Roland Garros va démarrer, pardon, dans quelques jours, dans deux semaines pour le tableau principal, avec donc l'éclosion d'Alcaraz. Que 19 vous voulez pas venir, 19 ans.
Il vient de fêter son anniversaire, on lui souhaite un joyeux anniversaire.
Un joyeux anniversaire, Carlos.
On attend Jet pour te rejoindre.
Justement, donc voilà, cette victoire, ça redistribue peut-être un peu les cartes. Justement, on va essayer d'avoir votre avis là-dessus. Étant donné que donc il y a Nadal qui a eu quelques périodes d'absence un peu plus tôt dans la saison, Djokovic qui a été aussi peut-être un peu perturbé, bah, est-ce qu'il sera en Laos du coup? Peut-être
oui.
Non.
Si, c'est ça,
il
n'y
a plus de passe.
Le pass vaccinal n'existe plus.
Voilà, mais il a eu du coup moins de compétition dans les pattes. Donc voilà, c'est quelque chose qui redistribue aussi les cartes. Il y a Tsitsipas qui reste sur un bon tournoi 2021. Messieurs, vous, quelle est votre tendance? Est-ce que déjà peut-être Faustin aussi, moi, est-ce que vous êtes plus tennis ou pas? Lequel est plus tennis?
Moi, je regarde un peu. Voilà, Roland Garros, je regarde les résultats même quand il y a eu l'Open d'Australie ou le Tour de Madrid. Bah, c'est vrai que je trouvais qu'il y a 2-3 ans encore, il y avait du mal à trouver une relève à tous ces Nadal, Federer, Djokovic, tout ça. Il y avait Zverev qui arrivait. Et là, c'est vrai que voir ce jeune joueur battre numéro 1, 2 et 3 mondial d'affilée, ça, c'est de bonne augure, quoi.
Toi, Simon ?
Bah, pareil, moi, je commence à suivre le tennis de plus en plus. Et bah, comme a dit Faustin, c'est vrai que c'est un peu redondant, tous ces matchs entre Nadal et Djokovic, c'est toujours un peu les mêmes en finale. Et là, il y a ce petit jeune qui arrive, Alcaraz, 18 ans, il balaye 3 stars mondiales d'affilée. Et puis, la façon dont il joue, c'était vraiment impressionnant. La façon dont il place ses amortis, ses coups droits. Il m'a impressionné et c'est pour moi une future star du tennis espagnol et mondial.
Max,
tu sais que tu connais ma réponse. Voilà, tant que pour moi, tant que Rafael Nadal sera dans un tournoi de Roland Garros, il sera favori. Parce que même s'il perd le dernier de Roland Garros,
tu avais dit exactement la même chose il y a un an, jour pour jour. Le débat, je me souviens, il a clos le débat en une phrase. C'est Nadal qui va gagner.
Mais mine de rien, il nous a offert une demi-finale incroyable, d'exception et même un tournoi d'exception. Gagné, il perd le tournoi.
Il avait gagné Madrid ou pas l'année dernière?
Je sais même pas. Mais en tout cas, l'année dernière, on a eu un énorme Djokovic qui a dominé ce tournoi de la tête et des épaules. Là, c'est vrai que cette année, Nadal, on le sent de moins en moins bien. Après, on sait que dans chaque tournoi de Roland-Garros, Nadal va réussir à se sublimer. Djoko, même s'il est en manque de temps de jeu ces derniers mois, ça reste Djoko, ça reste le numéro 1 mondial, voilà. Mais ouais, je pense que Alcaraz.
Ex-numéro 1 mondial.
Ex-numéro 1, pardon, c'est Medvedev. Premier, excusez-moi, messieurs. Le temps presse. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, Djoko, Nadal reste favori. Après, oui, Alcaraz, il peut faire figure de favori. Après, je pense que ça sert à rien de s'enflammer non plus. Et on va voir s'il arrive à accrocher une grosse place dans ce Roland Garros, parce que là, ça va être des matchs beaucoup plus longs. Notamment Zverev en finale du Master 1000, je crois qu'il y a eu une heure de jeu, un truc comme ça.
En deux manches.
C'était en 2-7, donc là ça va être en 3-7, ça va être un peu plus différent, mais en tout cas il fait la meilleure des prépas possibles. Et après il y a toujours des joueurs comme Zverev, Tsitsipas qui jouent encore les hauts du tableau et qui vont nous offrir, on l'espère, un super tournoi de Roland Garros.
Bah oui, avec donc pour l'instant c'est Djokovic apparemment qui est repassé devant. Et notez que Medvedev va être suspendu pour Wimbledon, c'est ça? Si je dis pas bêtise.
Roland Medvedev? Bonne question.
C'est ça que moi je me pose la question.
Les Anglais, je crois, oui, refusent la participation de.
Parce que là,
pour des Russes et des Biélorusses.
Ouais. Faustin, non. En fait, là, c'est vrai qu'il y a quand même 6 gros favoris qui se démarquent avec les 6 premiers qui sont monstrueux. Peut-être des fois même pourrait y avoir des outsiders inattendus. Mais c'est vrai que moi, Alcaraz m'a vachement impressionné. J'ai rarement vu un sportif émerger si jeune réaliser des performances pareilles. Franchement, c'est très impressionnant.
Surtout dans le tennis où très compliqué d'émerger à 18 ans.
Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, déjà. Parce que souvent, ils éclos vers 20 ans, ils ont au moins la tête bien tassée. Mais Alcaraz, il va battre à Madrid Rafael Nadal. On se rend compte de l'exploit.
Sur terre battue,
c'est un truc
dans
de
le jardin de Nadal. Parce que, c'est ça. Le nombre de fois qu'il a remporté ce tournoi.
Ah, mais c'est. Bon, moi, je trouve ça incroyable. Donc. Je sais pas si ça en fait mon favori, mais ouais, il va. En tout cas, ça va être très intéressant de le voir. Dans tous les cas, chaque match de Alcaraz, ça va être vraiment très très intéressant de le voir.
Sixième mondial, du coup.
Il est déjà passé sixième mondial, hein. Franchement.
Sixième avant le tournoi de Madrid, je crois.
Ouais, bah il a dû gagner énormément de points, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, on a affaire à un gros espoir. Et le temps file, Max, tu me fais le petit signe pour la montre. C'est vrai que le temps file, il est 58 maintenant.
Comme les Français après 2 semaines à Roland Garros.
Alors oui, on aura pu parler des Français, mais en tout cas, au moins ça va aller vite. Parce que du coup, c'est vrai que nos Français ne sont pas forcément en forme. On verra ça. Dans les semaines prochaines. Je remercie Faustin et Simon d'avoir été avec nous. Vous revenez évidemment comme vous voulez. Vous êtes les bienvenus ici dans la maison de Génération Sport.
On peut le dire. Merci Cédric aussi d'être venu. Max, merci d'être à la régie. Je remercie tout le monde.
Je te remercie également. Alex.
Merci Radio G, merci tout le monde. On vous laisse avec la suite des programmes. C'est Calibre 58.
Auditeurs de Radio G, bonsoir. Il est 21h, passé de quelques heureuses secondes. Et c'est toujours l'heure du crime en Anjou. Une heure pendant laquelle nous allons plonger dans l'histoire de France, celle de 1898, en compagnie de Philippe Schlouse, l'auteur de La valse des damnés à la